C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
En ce jour férié dans C'est ludique, je vous propose de créer les plus beaux bijoux pour les monarques et les personnes les plus fortunées de la Renaissance. Mais vous n'êtes pas seul, hein, vous avez un concurrent qui a la même idée de vous. Voici Splendor Duel, un jeu de Marc-André et Bruno Catala. Alors Splendor, on est d'accord, on connaît. Et si ça ne vous dit rien, je vous invite à réécouter la chronique de C'est ludique. C'est en podcast sur notre site internet. Dans Splendor, on va avoir 3 paquets de niveaux différents. On va créer une rivière de cartes. On place 5 cartes de niveau 1, 4 cartes de niveau 2 et 3 de niveau 3. Plus les cartes sont de niveau élevé et plus elles sont difficiles forcément à réaliser. Mais forcément, elles rapportent plus de points. Pour l'emporter dans Splendor Duel, il faut obtenir au moins 20 points de prestige ou avoir cumulé 10 couronnes. Dernière condition de victoire possible, c'est 10 points de prestige dans une même couleur. Alors ce qui va changer, notamment dans Splendor Duel, c'est le plateau. Vous allez poser 25 jetons, comme dans Splendor ou Splendor Marvel, ce sont des jetons de casino qui vont représenter des pierres précieuses, émeraudes, saphirs, diamants, rubis, il y a aussi des perles et de l'or. Pour placer les jetons sur le plateau, il faut commencer au milieu en suivant la spirale. Et pour finir la mise en place sur le plateau, on va aussi poser 3 jetons privilèges et enfin en dessous 4 cartes royales avec des objectifs. Le placement est important. Mais alors comment on joue à Splendor Duel ? À votre tour, vous allez soit pouvoir récupérer jusqu'à 3 jetons gemmes, les pierres précieuses, soit prendre un jeton or pour réserver une carte joaillerie, ou dernière chose, acheter la carte réservée ou une sur le plateau. Alors si vous avez joué à Splendor, vous connaissez cette mécanique. On va revenir sur ces actions obligatoires, mais avant de les faire, il y a la possibilité de jouer un ou plusieurs jetons privilèges que vous avez récupérés auparavant. Jouer un jeton privilège vous permet de prendre un jeton gemme. Revenons aux actions obligatoires. Alors si je décide de prendre des jetons sur le plateau, ils doivent être adjacents, en ligne, colonne ou diagonale. Si je prends 3 jetons de même couleur ou 2 perles, mon adversaire aura le droit en plus à avoir un jeton privilège. Prendre un jeton or me donne la possibilité de réserver une carte joaillerie. Bien pratique car je n'ai pas forcément assez de jetons pour acheter une carte. Mais au moins, en la réservant, personne ne me la prendra. Je peux aussi prendre la première, l'une des 3 pioches. Dernière chose, acheter une carte. Et pour acheter une carte, il me faut assez de gemmes. Mais les cartes achetées, en plus d'avoir, pour certaines, des points de prestige, elles ont aussi des gemmes et comptent comme des pierres précieuses pour un prochain achat. Et alors, exemple, je veux acheter une carte où il me faut 3 pierres bleues. Si j'ai un jeton bleu et en ma possession 2 cartes avec des gemmes bleues, eh bien, je peux l'acheter. Vous verrez que certaines cartes joaillerie ont des bonus qui permettent de réduire le coût, de rejouer ou encore de récupérer un jeton. 5 bonus au total et puis certaines ont aussi des couronnes, 3 couronnes. Et vous prenez une carte royale, 6 couronnes, et bien vous prenez 2 cartes royales, 10 couronnes, c'est la victoire. Dernière chose, n'oubliez pas qu'après votre tour, vous ne devez pas avoir plus de 10 jetons. Splendor est certainement l'un des jeux que j'ai le plus joué, puis arrivé Splendor Marvel avec des petites règles en plus, et si on pouvait déjà jouer à ce Splendor à 2, ce Splendor Duel est une petite pépite ludique pour 2 joueurs qui va briller longtemps au milieu de votre ludothèque. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Marie qui a rencontré Bruno Catala pour nous expliquer un petit peu comment Bruno Catala est arrivé dans l'aventure Splendor.
C'est ludique, encore plus de hits et plus de jeux.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Festiludique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Bruno Catala. Bonjour Bruno.
Mais bonjour.
C'est vraiment avec un grand plaisir que l'on commence. Alors du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es ?
Oula, c'est compliqué ça. Donc Bruno Catala dit Bruno des montagnes dans le milieu parce que j'habite en Haute-Savoie. Donc je suis avant tout un passionné de jeux de société et depuis maintenant 20 ans, c'est devenu plus qu'une passion puisque c'est ma vie en fait. Donc je crée, j'invente des jeux de société.
Donc Bruno a fait beaucoup de jeux, vous en connaissez peut-être sûrement. Ça fait combien de temps que tu crées ? Genre ton premier jeu c'était il y a combien de temps ?
Ça fait pile 20 ans. C'est-à-dire que mes tout premiers jeux sont sortis exactement début octobre 2002.
Wow.
Et donc là je fête mes 20 ans, je suis vieux en fait.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour tes 20 ans du coup dans le monde du jeu ?
Rien. Moi je me suis célébré mon auto-anniversaire en écrivant un article sur TrickTrack pour justement faire un peu le bilan, faire des statistiques, etc. Donc c'était assez intéressant de faire cet exercice-là.
Ah ouais, c'est trop chouette. Et du coup en parlant statistiques, peut-être que du coup tu sais combien de jeux tu as sorti ?
Alors exactement, je vais plutôt parler de publications plutôt que de jeux parce que pour moi, par exemple, il y a les jeux initiaux, puis après il y a les extensions que j'ai pu faire pour ces jeux-là. Parfois, il y a certains jeux ont une seconde vie avec des modifications, etc. Donc pour moi, à chaque fois, c'est une publication. Et en 20 ans, je sais que cette année, je bouclerai ma 150e publication.
Waouh, 150 en 20 ans, mais c'est incroyable.
Voilà. Mais par contre, ce qui est important aussi, c'est de bien noter que les deux tiers de ces publications, je ne les ai pas commises seules.
Oui.
Puisque une de mes spécificités, c'est de beaucoup travailler en co-autorat.
Tout à fait.
Et donc, effectivement, il y a un jeu sur trois que je fais tout seul et deux jeux sur trois que je fais en co-création avec différents co-auteurs. Le plus fréquent d'entre eux ayant été, et étant toujours d'ailleurs, Ludovic Maublanc, avec qui nous avons fait 32 jeux ensemble.
32 jeux ?
Ouais, tout à fait.
C'est bien parce que tu réponds à mes questions avant même que je les pose.
C'est ça, fort hein, quand même. Hein.
C'est incroyable.
Mais c'est peut-être parce que j'ai lu ta fiche avant en fait.
Ah, c'est ça. Non, du coup, j'allais te demander quel est l'auteur avec qui tu as fait le plus de jeux, parce qu'en effet, c'est vrai que sur tes boîtes, on voit très souvent c'est un ça. Co-auteur, et ce qui est plutôt chouette, je trouve.
Bah, en fait, créer, c'est douter. Et douter à deux, c'est beaucoup plus confortable que de douter tout seul. Donc déjà ça te donne une assise. Et puis ça te permet aussi... Enfin moi, c'est quelque chose qui a été conscientisé depuis le tout début. C'est peut-être aussi parce que je viens de l'industrie et je viens du milieu de la recherche. Et quand tu travailles en recherche et développement dans l'industrie, tu travailles jamais seul. Tu travailles forcément parce que toi, tu peux pas être l'expert de tous les domaines. Et donc, à un moment donné, tu travailles forcément en t'appuyant avec d'autres spécialistes qui ont des compétences qui sont complémentaires aux tiennes, etc. Et en fait, finalement, ça m'a semblé assez naturel de faire ça dans le jeu, ce qui te permet d'explorer des endroits où tu serais jamais allé. Et puis, comme j'avais la volonté pas de faire un jeu, mais de m'installer, de faire des jeux, je me suis dit que... Comme ton cerveau, il a toujours tendance à revenir dans sa zone de confort, le meilleur moyen peut-être de pas trop se répéter, c'était d'aller se confronter à d'autres cerveaux, justement.
Ah bah oui, c'est génial. Ouais. Et puis je pense que pour les échanges, ça permet de la créativité, elle augmente. Quand on est plusieurs, on fait du ping-pong.
C'est le principe du brainstorming. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, peut-être qu'il y en a un qui a formaliser l'idée verbalement, mais en fait elle est issue d'un ping-pong entre les deux personnes, ce qui fait qu'en réalité c'est pas l'idée de l'un ou de l'autre. Et un co-travail, il est important de noter que c'est toujours un travail équilibré entre deux personnes. Il s'agit pas de savoir qui a fait quoi à l'intérieur d'un jeu, ça n'a aucun sens.
Oui, c'est ce que tu nous disais notamment pour ton dernier jeu là, qui
exactement.
Va arriver, pour Splendor Duel.
Splendor Duel, ouais, qui est un jeu fait avec Marc-André, qui lui, alors pour le coup là c'est différent parce que Splendor Duel, il y a d'abord Splendor. Et Splendor, j'y suis strictement pour rien. C'est un succès, un vrai succès mondial Marc-André. Et là, Marc-André m'a fait l'amitié et le cadeau de m'inviter à travailler avec lui sur la version spécifique de joueur.
Voilà, qui va sortir très prochainement.
Qui va sortir tout début novembre.
Et du coup, Splendor Duel, tu as une petite histoire à raconter, une petite anecdote dessus
L'anecdote, la première anecdote, c'est que en fait, quand Marc-André m'appelle... on est au tout début du premier confinement et bon, je suis un peu surpris en fait parce que Splendor c'est un jeu qui joue déjà très 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 bien à deux en fait, et donc du coup à la fois le projet m'intéresse parce que forcément c'est un projet porteur, c'est un sacré challenge, et en même temps je me dis mais comment faire un jeu à deux spécifique d'un jeu qui se joue déjà très bien à deux, et donc je me dis mais à condition d'avoir une idée quoi. Et en fait j'y réfléchis pendant plusieurs semaines et puis j'ai pas déclenché et j'ai commencé par refuser le projet en fait.
Waouh, c'est fou quand on voit le résultat que c'est aujourd'hui.
Ouais, mais parce que à un moment donné ça sert à rien de forcer, tu vois ce que je veux dire, c'est t'as l'idée, elles sont pas là. Puis tout ce qui me venait en tête, c'était des choses qui rendraient le truc trop compliqué ou trop différent. Et puis il fallait que ça ressemble à Splendor, mais que ça soit pas Splendor. Il fallait qu'il y ait son identité propre. Il fallait que, Et je réussissais pas à m'éloigner suffisamment de l'épure, en fait. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et plusieurs mois plus tard, en fait, ils m'ont recontacté, donc Marc et l'éditeur, en me disant « Non, mais Bruno, quand même. » voilà. Et puis, en fait, entre-temps, j'avais rejoué beaucoup à Splendor Marvel. Et peut-être que ça m'a aussi rafraîchi la tête et tout ça. Et puis du coup, dans la nuit, il y a une première idée constitutive qui est née, en fait. Et du coup, j'ai rappelé Marc le lendemain matin en lui disant « Hey, regarde, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ?»« Ah ouais, super !» Et à partir de là, on a construit à partir de ça, quoi.
Donc, c'est génial. Ouais. Okay.
Mais au début, j'ai commencé par dire non. Et aujourd'hui, je me dis « Putain, ça aurait été dommage, quand même. »
Oui, mais du coup, c'est peut-être bien d'en être passé par là. Parce que ça se trouve, si t'avais forcé à ce moment-là, ça n'aurait pas donné ça. Et...
De toute façon, à un moment donné, si c'était pour faire un truc... entre guillemets, qui fonctionne, simplement parce que ça peut paraître très prétentieux, mais faire un jeu qui fonctionne, c'est facile. Mm-hmm. Parce que vraiment, par contre, faire un jeu que tu as envie de rejouer, c'est autre chose.
Ouais.
Donc voilà, donc si c'était simplement faire un truc qui fonctionne sur une telle licence que Splendor, c'était pas bon, ni pour la licence, ni pour moi, par rapport à d'autres projets plus tard. Bah, en termes de crédibilité, c'était pas bon. Alors après, ce jeu plaira pas à tout le monde, hein, je veux dire, il y a nécessairement des gens à qui ça conviendra pas. Mais par contre, je suis très solide sur les bases, et je suis très content de ce qu'on a fait, et je l'assume à 200%. Et là, maintenant, je sais que là, on vient ni marcher sur les plates-bandes de Splendor, si tu veux, ni mettre en péril la licence. Quoi.
Donc, ah oui, complètement. Et alors moi, pour le coup, en ce moment, je joue à beaucoup de jeux, et Splendor Duel, j'ai eu vraiment envie d'y rejouer. Là, on a fait plusieurs parties, donc non, moi, j'ai vraiment cette envie-là.
Je t'interdis de redire encore une fois que tu m'as battu, parce que c'est presque vrai, en fait.
C'est complètement vrai. J'ai donc battu Bruno Catala à Splendor Duel.
L'avantage, c'est que du coup, je pense que du coup, il doit y avoir un problème de règles. Je vais revoir le système de règles immédiatement.
Le système de points, on va passer.
C'est l'avantage d'être auteur, c'est que tu fais ce que tu veux finalement. Tu vois, c'est ça.
C'est ça. Non, et trop bien. Dans cette petite émission, je parle beaucoup de festival. Est-ce que toi, ça t'arrive d'aller en festival ?
Ah bah oui, ça m'arrive beaucoup d'aller en festival. J'en ai fait énormément. J'en fais un peu moins aujourd'hui pour garder un peu plus de temps pour ma vie personnelle, parce que c'est difficile de concilier vie de famille en étant absent 2 week-ends sur 3, ce qui était le cas avant. Donc, mais oui, j'en fais toujours. Et là, d'ailleurs, dans le week-end du 1er novembre, je serai à Belleville-sur-Saône, dans le Beaujolais, du coup, pour un petit festival à taille humaine. Ce sont les festivals que je préfère. Ce n'est pas ceux où il y a 150 000 personnes, c'est plutôt ceux où il y a 1000 personnes. Et ce qui me permet d'avoir un peu du temps pour chacun, d'avoir des vraies discussions et pas simplement signer des boîtes à la chaîne, en fait. Donc ça, c'est cool.
Du coup, qu'est-ce que tu préfères dans un festival ? C'est ça, c'est ce moment d'échange ?
Ouais, de toute façon, je fais des jeux pour ça. Je fais des jeux pour les échanges que ça crée. Le jeu, ce n'est qu'un prétexte, en fait, à générer du lien social. Quand tu joues à une partie, mais même en tant que créateur, moi, je crée ces jeux-là pour le fait que des gens viennent vers moi et qu'on va pouvoir rentrer en contact, sinon je le ferai jamais, quoi. Toutes ces rencontres-là, elles sont hyper précieuses pour moi.
C'est génial. Et est-ce que toi, maintenant, en tant que Bruno Catala, parce qu'on peut le dire comme ça avec tout ce que tu sors, est-ce que les festivals, c'est aussi un moment pour toi de présenter des prototypes ou pas du tout ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, depuis le tout début, hein, c'est pas une histoire d'être connu ou pas connu. J'ai toujours été très méfiant, je sais pas si c'est le mot, mais tu sais jamais qui va être autour de la table quand tu présentes un prototype dans un festival. Et tu sais jamais qui va avoir la capacité à comprendre que ce jeu, ce proto est en cours de travail et donc n'est pas finalisé et donc est imparfait, tout ça. Et moi, je veux pas prendre le risque d'avoir déjà une volée de bois vert, de trucs négatifs parce que ça marche encore pas suffisamment bien et tout ça. Donc oui, j'amène des prototypes sur les festivals, mais c'est des prototypes qui pour moi en réalité sont terminés. Voilà. Parce que du coup, je peux avoir des avis négatifs, ça ne me dérange pas, mais sur des choses que j'assume à 100%. Pas sur des choses qui sont en cours de travail et que la personne en face n'a pas compris que ça n'est pas fini. Quoi.
Oui, qu'elle a pas compris que c'était un prototype.
Exactement.
Ok. Eh bien, c'était très 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 intéressant. En tout cas, je te remercie pour ce petit échange et je vous dis à très bientôt dans Festiludique. Au revoir Bruno.
Au revoir.